Bien, bonsoir. On va commencer. Donc là, j'ai pas le secours d'un micro, donc j'espère que tout le monde m'entend et que ma voix va tenir jusqu'à la fin de la séance. Juste avant de passer au contenu du cours, je vais faire un petit peu d'autopromotion sur un sujet qui n'a rien à voir. La bibliothèque municipale de Lyon, donc à la Part-Dieu, organise une série de rencontres sur le thème de l'écriture au travail. Et ils m'ont convié à un dialogue sur la prostitution le mardi 19 mars à 18h30, où je vais dialoguer avec un écrivain qui s'appelle Charles Robinson, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle « Génie du proxénétisme » aux éditions du Seuil, que je n'ai pas encore lu. Donc je ne sais pas ce qu'il en est, donc voilà, si ça intéresse du monde, il y a quelques petits flyers qui sont là. Alors, je passe tout de suite, oui, municipal de, oui, la Part-Dieu, hein. Donc 18h30 le 19 mars. D'accord, mais là c'est en dehors de l'UP, hein, c'est... Voilà, je vais passer maintenant au contenu donc de cette dernière, quatrième et dernière séance du cycle de cette année. Donc, après avoir abordé les causes et le déroulement des révolutions, on va terminer en envisageant leurs suites et leurs conséquences. Alors, j'ai intitulé cette dernière séance « Le petit matin », parce que, évidemment, ça fait pendant au grand soir qu'on a abordé la semaine dernière. Mais aussi parce que le petit matin, en tout cas parfois, c'est le moment où après une grande et belle fête, on rentre chez soi avec une certaine gueule de bois. Et ce que je veux aussi marquer par cette expression, c'est que les suites des révolutions présentent bien souvent des difficultés que ceux qui ont tendance à exalter les insurrections populaires oublient un peu trop rapidement. Une fois qu'on s'est débarrassé d'un régime détestable et détesté, qu'est-ce qu'on fait ? À partir de quoi inventer un nouveau jeu politique? Qui placer à la tête du nouveau régime? Comment consolider ce nouveau régime qu'on est en train d'inventer, sachant que les partisans de l'ancien régime n'ont sans doute pas dit leur dernier mot et qu'ils préparent peut-être une restauration, hein, comme ça a été le cas en France après la chute de Napoléon au début du XIXe siècle. Donc je vais essayer de répondre à un certain nombre de ces questions, en tout cas je vais essayer d'apporter des éléments de réponse à certaines d'entre elles, avec une nouvelle fois des exemples historiques hétérogènes et en mobilisant des outils sociologiques divers. Mais vous avez déjà perçu que c'est avec une certaine circonspection que je vais aborder ces questionnements, sans partager l'enthousiasme un peu rapide des révolutionnaires autoproclamés. Il n'est pas certain... Il n'est pas assuré que la rupture révolutionnaire, ça soit toujours et nécessairement le meilleur moyen de mettre fin à un régime insatisfaisant. En tout cas, si on se place du point de vue des masses populaires. C'est pas parce qu'on se débarrasse du tyran qu'on se débarrasse en même temps de la tyrannie. Et ceux qui font les révolutions ne sont pas toujours ceux qui en récoltent les fruits. Il n'y a qu'à penser aux situations en Égypte et en Tunisie pour avoir des exemples. Et puis... Dernier mot d'introduction, les suites des révolutions retiennent peu l'attention de manière générale, mais aussi du côté des sciences sociales. Évidemment, on préfère s'intéresser au moment de l'embrasement insurrectionnel, et c'est aussi quelque chose qui affecte les sciences sociales, donc je vais me baser pour ce cours sur, en grande partie sur un domaine de recherche qui est propre, mais autonome de la sociologie des révolutions, qui est la transitologie, c'est-à-dire l'étude des transitions à la démocratie. Alors, c'est un domaine de recherche qui s'intéresse, comme son nom l'indique, aux conditions du passage d'un régime autoritaire à un jeu politique démocratique, c'est-à-dire ouvert à une pluralité de participants. La transitologie, c'est un domaine qui s'est constitué à partir des années 50, avec la question de la démocratisation des régimes fascistes vaincus dans la Seconde Guerre mondiale, mais aussi et surtout dans les années 70, avec la démocratisation du Portugal et de l'Espagne, puis dans la décennie suivante, la démocratisation des régimes autoritaires d'Amérique latine, et puis évidemment, la dernière impulsion que ce domaine de recherche a reçue, c'est au moment de la chute du bloc soviétique. Donc il y a un voisinage ou un cousinage avec l'étude des révolutions, car certaines de ces transitions ont eu lieu à la faveur de mobilisations populaires. C'est le cas par exemple en RDA, mais pas en Espagne. Également, dernière remarque sur la transitologie, c'est sa forte pente normative. Ça n'a choqué personne, je pense, que je parle de transition à la démocratie. Si je me mettais à parler de transition au fascisme, là, je pense qu'il y aurait davantage de gens qui tiqueraient, et à juste titre. Donc, c'est pas en soi un gros problème. Moi, je suis tout à fait d'accord que la démocratie, même très imparfaite comme la nôtre, est beaucoup plus souhaitable que le fascisme. Mais ça dit des choses sur certains chercheurs de ce domaine, qui sont des experts en démocratie, et qui vont aller donner des conseils dans des pays qui viennent de se débarrasser de leur dictateur. Des experts qui vont travailler pour des agences internationales de maintien de la paix, qui éventuellement ont leurs propres organisations de conseils en réconciliation politique, etc. Alors, il ne s'agit pas de les disqualifier en disant cela de ces experts, mais ça informe sur leur travail, en pointant qu'il y a pour eux des bonnes transitions, des bonnes formes de passage à la démocratie, dont ils entendent faire la promotion en écartant d'autres voies qui pourraient leur sembler moins favorables. J'y reviendrai plus en détail. Alors, après cette introduction, encore une fois un petit peu longue, je vais passer au cœur de la séance, qui sera donc divisée en trois parties d'inégale longueur. La première sera consacrée aux moyens de mettre fin à une situation de crise révolutionnaire. La deuxième abordera précisément le processus de transition vers un nouveau régime. Et puis la troisième opérera un bref bilan des expériences révolutionnaires. Donc premier point, première question, celle de la clôture de la séquence révolutionnaire qui est marquée, comme on l'a vu la semaine dernière, par la fluidité politique. Donc quelques mots de rappel pour de la semaine dernière, pour se remettre en mémoire ou pour s'il y a des gens qui n'étaient pas là. La fluidité politique, elle est constitutive de la crise et elle est liée au fait que l'emprise des logiques sectorielles, des règles du jeu de chacun des secteurs qui composent la société, s'affaisse ou s'affaiblisse. Par exemple, les militaires cessent de se comporter uniquement comme le bras armé du gouvernement. Ils entendent éventuellement remplacer ce gouvernement. Autre exemple, le Premier ministre cesse de se comporter uniquement comme un Premier ministre, mais il se dit qu'il pourrait aussi bien se comporter comme un président de la République. Et surtout, si le président en exercice paraît ne plus être en mesure de jouer son rôle. Dernier exemple, la police cesse de réprimer le désordre, mais se solidarise avec la population qui dresse des barricades. Tout ça sont des logiques de fluidification du monde social, c'est-à-dire que l'emprise des logiques de chacun des secteurs s'affaisse, s'atténue, s'effondre. Et j'avais aussi souligné la semaine dernière que dans de telles situations, l'élément prédominant, c'est l'incertitude. Les situations de routine sont prévisibles parce que chacun sait, parce qu'il appartient à tel secteur et que ce secteur fonctionne de telle manière, il sait que la conduite de tel individu sera celle-là. Le gouvernement sait que telle ou telle partie de l'opposition réagira de telle manière, que tel syndicat pourra aller jusqu'à tel point dans l'appel à la mobilisation, mais s'arrêtera à tel moment. Donc en situation de routine, le jeu politique est assez prévisible. Mais en situation de crise, c'est l'incertitude qui règne et c'est à la fois angoissant, chacun s'inquiète sur son avenir et cherche à le préserver, mais c'est aussi excitant parce qu'il peut y avoir des coups à jouer, on peut tirer les marrons du feu à son propre avantage. Mais néanmoins, pour les acteurs les plus importants du jeu politique, c'est-à-dire ceux aussi qui ont le plus à perdre, il y a intérêt à revenir et assez rapidement à un fonctionnement sectorisé, à un jeu routinier du champ politique. Alors, voilà, il y a différentes solutions pour revenir à une situation routinière, à un jeu politique sectorisé. Une des premières solutions qui se présente, bien sûr, c'est d'accroître le coût de la protestation protestataire. Accroître le coût, c'est-à-dire recourir à la répression. Des régimes autoritaires, c'est quelque chose d'assez facile. Le régime, il est connu et identifié comme répressif. Il sait montrer sa force, il dispose de services de renseignement très efficaces et de troupes spécifiquement chargées de l'infiltration et de la neutralisation des opposants. En outre, le régime dispose souvent d'un discours de légitimation de la violence, en attribuant la responsabilité de la contestation à telle ou telle cause, par exemple à une infiltration étrangère ou à un ennemi intérieur. En mai 68, par exemple, alors c'est pas spécifique aux régimes autoritaires, en mai 68, certains acteurs gouvernementaux ont parlé de la RDA ou de la Chine comme ayant joué un rôle dans l'organisation de la crise. Alors, juste petite parenthèse humoristique, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Raymond Marcellin, avait demandé aux renseignements généraux de contrôler s'il n'y avait pas si le gouvernement chinois n'avait pas essayé d'influencer la contestation. Et donc les renseignements généraux se sont trouvés à observer tout ce qui pouvait relever de la Chine en France, et je suis tombé dans les archives départementales de la Loire sur une note des renseignements généraux concernant le restaurant chinois de Saint-Étienne, pour savoir si ce restaurant était en lien avec le régime maoïste, et les renseignements généraux ont fait leur travail, et dans leurs notes, ils expliquaient que non, que ce restaurant était tenu par un pied noir marié à une vietnamienne, que le couple allait très mal parce que le monsieur jouait, et que sa femme demandait le divorce, mais non, il n'avait joué aucun rôle dans mai 68, et il n'était pas en lien avec les services secrets chinois. Voilà, je referme la parenthèse, mais c'est assez édifiant. Voilà. Alors, cette option de la répression, revenons à des choses un peu plus sérieuses et dramatiques, c'est comme ça, l'augmentation de la répression, que réagissent la plupart des gouvernements autoritaires, face à une mobilisation qui se généralise en Tunisie. Pour vous rappeler, on a eu notre ministre de la Défense qui a proposé ses services au régime de Ben Ali, ou bien en Égypte, ou pendant les premiers mois de la révolution iranienne. Le souci, évidemment, c'est quand la fluidité a atteint les secteurs en charge du maintien de l'ordre. Les gouvernements, à ce moment-là, ne sont pas assurés d'être obéis. C'est le cas en Iran en 79 et aussi en Égypte en 2011, quand l'armée lâche le dictateur et se déclare neutre. Alors, s'il peut compter ce dictateur sur un autre secteur armé, par exemple la police, c'est un moindre mal, mais néanmoins, ce qui est intéressant à relever, c'est que l'État, j'y avais insisté la semaine dernière, ne marche pas comme un seul homme. Il est composé lui aussi de secteurs qui n'obéissent pas aux mêmes logiques, qui n'obéissent pas aux mêmes intérêts. Et par exemple, l'armée et la police peuvent avoir des attitudes différentes en situation de crise. En RDA aussi, en 1989, il y a eu une phase de flottement. Les manifestants ont bravé un interdit de défiler dans la rue. Il y a un face-à-face avec la police, notamment à Leipzig, qui aurait pu très bien dégénérer. La police aurait pu tirer. Elle ne le fait pas. Et à partir de ce jour, c'est impossible de revenir en arrière. Si une manifestation pourtant interdite a pu se dérouler sans être réprimée, il devient difficile pour le gouvernement de réprimer celles qui vont suivre sans renforcer la détermination des contestataires. Et puis, un dernier point sur cette option de la répression, c'est que ses effets sont ambigus. Ça peut effectivement doucher les ardeurs protestataires, pensez à la Chine en 1989. Mais ça peut aussi accroître l'indignation populaire et la haine à l'égard du gouvernement, et donc produire une radicalisation. C'est précisément ce qui se passe en Tunisie et en Égypte. C'est aussi ce qui s'est passé pendant la révolution iranienne, où il y avait des manifestations de plus en plus amples, qui étaient réprimées par la police, ça faisait des morts, mais ça n'a pas mis fin à la mobilisation, ça l'a au contraire favorisé, parce que notamment les rites du deuil musulman ont été mobilisés pour organiser de nouvelles manifestations en hommage aux martyrs, une quarantaine de jours après leur mort. Donc c'est le calendrier du deuil musulman qui a constitué une base pour rythmer les protestations. Et à chaque fois, en faisant de nouveaux morts, donc chaque manifestation relançait la dynamique. Il y a une autre solution que la répression qui est plus intéressante et qui se présente aux dirigeants qui sont contestés, c'est d'offrir une solution institutionnelle à la crise. En quoi ça consiste? Eh bien, simplement à adresser à tout le monde un message qui dit en quelque sorte « Ok, la situation est exceptionnelle, j'ai compris qu'on ne peut plus fonctionner exactement comme avant, donc on va rebattre et redistribuer les cartes du jeu politique, mais selon des modalités qui restent conformes aux institutions et selon des modalités dont je garde la maîtrise. Ça peut fonctionner, mais à condition que cette solution soit acceptée par les contestataires, ou tout au moins par les plus puissants d'entre eux, parce que eux aussi, ils pensent avoir intérêt à maintenir le jeu dans des formes institutionnalisées, parce que eux aussi maîtrisent ces formes institutionnalisées. Alors, je vais donner un exemple qui va rendre ça beaucoup plus clair. C'est une solution institutionnelle de ce type qui permet à De Gaulle de clore la crise de mai 68. De Gaulle, donc le président de la République, il est contesté, il est fragilisé, mais il reprend l'initiative le 29 mai dans son célèbre discours à la radio où il annonce précisément une solution institutionnelle. Il dissout l'Assemblée nationale, comme il en a le pouvoir, et il appelle à de nouvelles élections législatives. C'est quelque chose de risqué. On est à un moment où l'opposition à son régime est très forte et il n'est pas sûr de remporter ces élections. Mais ça permet de canaliser les anticipations sur cette échéance, spécialement du côté de sa principale force d'opposition, en l'occurrence le Parti communiste. Le Parti communiste, en mai 68, il n'a pas appelé à la mobilisation. Et il se méfie de cette mobilisation parce qu'il a peur d'être débordé par l'extrême gauche. Donc c'est une situation incertaine qui ne lui plaît pas et qu'il essaye de réduire et de contrôler. De ce point de vue-là, de nouvelles élections législatives, c'est parfait pour lui. Il maîtrise le jeu électoral, ça fait longtemps que le Parti communiste est un parti important dans la compétition électorale. Et en plus, il pense, à tort, mais en tout cas il ne le sait pas encore, qu'il va beaucoup progresser dans ces élections. Donc, dès la déclaration de De Gaulle, le Parti communiste appelle les salariés à reprendre le travail. Alors, certains, dans les secteurs les plus radicalisés, vont renâcler à retourner travailler, mais il n'empêche que tous les partis, et notamment le Parti communiste, vont converger, focaliser leurs attentes vers cette solution institutionnelle. Alors, c'est une solution qui ne marche pas à tous les coups. Et puis, je l'ai dit, c'est risqué. En 68, de fait, la majorité des électeurs a préféré voter pour l'ordre. Les gaullistes, après les élections de juin, auront une majorité beaucoup plus confortable qu'avant. Mais c'était cette majorité qui a voté pour l'ordre, c'était une majorité silencieuse. Les plus éloquents, c'étaient les contestataires au moment où la solution a été adoptée. Et puis c'était risqué parce que ce n'était pas assuré que l'ensemble des partis, ou en tout cas ceux qui pèsent le plus dans l'arène électorale, se rallient à cette solution. L'intéressant dans le cas de mai 68, c'est qu'à la fois le gouvernement et son principal opposant, le Parti communiste, avaient tous les deux intérêt à réduire la fluidité politique. Donc il y avait une sorte d'accord tacite pour favoriser cette solution. Mais il n'y avait même pas besoin de le négocier ou de se le dire. C'était clair que ça arrangeait tout le monde. Dans d'autres circonstances, si l'opposition refuse cette solution, c'est beaucoup plus compliqué. Et par exemple, si on regarde la situation tunisienne, Ben Ali a annoncé le 14 janvier, après déjà un mois de manifestations de plus en plus radicales, qu'il allait limoger son gouvernement et qu'il allait organiser des élections législatives anticipées. Donc, d'une certaine manière, la même chose que De Gaulle, mais ça n'a pas marché. Au contraire, ça a accentué l'impression de faiblesse du pouvoir, et c'est dans la nuit qui a suivi que Ben Ali s'est enfui en Arabie Saoudite. Alors, sans doute que ces concessions sont arrivées trop tard, dans un pays où on doute généralement de la sincérité des élections, mais par contre, dans un pays voisin, le Maroc, ça a parfaitement marché. La semaine dernière, j'avais évoqué le mouvement du 20 février au Maroc, qui était monté en puissance du fait qu'il était soutenu par la coalition des forces d'opposition, de forces d'opposition très diverses, qui allaient de l'extrême gauche et des altermondialistes aux islamistes modérés, et aux défenseurs des droits de l'homme. Donc une coalition large avec des partis d'opposition parlementaire comme extra-parlementaire, des syndicats, des associations, quelque chose, un front très large. Et cette coalition, elle arrive à organiser des manifestations très impressionnantes, qui constituent une réelle menace pour la monarchie. Et le roi va réagir, Mohamed VI, va réagir en ouvrant un processus consultatif pour une révision de la Constitution. Et c'est autour de cette consultation que l'opposition va se fissurer pour savoir s'il faut ou non y participer. Et donc certains vont y participer, donc d'autres vont rester à l'écart, et la Constitution, la réforme de la Constitution va passer en concédant quelques nouveaux droits, mais surtout la menace est passée. Hein. Et puis le temps qu'il y ait le processus consultatif, je dirais l'effervescence liée à la révolution tunisienne, qui sert un peu d'inspiration, est retombée. Et l'opposition est affaiblie parce que précisément, elle s'est divisée. Donc l'opportunité de faire chuter la monarchie marocaine est passée, elle n'a pas pu être saisie par l'opposition et la monarchie reste en place. Donc on retrouve ici un point sur lequel j'avais beaucoup insisté la semaine dernière, c'est que les mobilisations révolutionnaires sont composites, sont dispersées. Elles résultent de la coalition de groupes ou de camps différents qui se trouvent en situation de concurrence pour la définition de la révolution et pour la direction du processus révolutionnaire. Alors, cette coalition, cette réunion, fait la force du camp révolutionnaire, mais aussi sa fragilité potentielle, parce que ça suppose des lignes de clivage qui peuvent se fracturer. Tant que le processus est en cours, tant que les différentes unités sont conscientes qu'il faut maintenir la coalition, ça marche, mais une fois que le processus est achevé, la concurrence va se raviver. Et évidemment, les adversaires, le gouvernement en place, va jouer sur ces lignes de clivage pour diviser son opposition. On voit aussi, au travers du cas des révolutions arabes, comment l'enjeu pour les gouvernants, il est de sauver l'essentiel à plus ou moins court terme. Le roi du Maroc, il y est bien parvenu en ouvrant une solution institutionnelle qui lui a permis de rester en place à moindre coût, quelques concessions réformatrices, mais en divisant son opposition. À l'inverse, avec Moubarak ou Ben Ali, on voit comment ils passent progressivement de postures intransigeantes et répressives à des concessions. Ils limogent un ministre de l'Intérieur, ils annoncent qu'ils ne se représenteront pas à leur propre succession, mais en restant jusqu'au terme de leur mandat actuel, ils annoncent des élections anticipées. Le souci, c'est que la dynamique protestataire est déjà lancée. Ces concessions, elles arrivent trop tardivement pour leur permettre de rester en place et ils doivent quitter le pouvoir. On voit aussi, si on regarde la situation syrienne, Assad avait commencé par des concessions. Notamment, il avait levé un état d'urgence qui régnait depuis les années 60. Mais il est vite retourné à une posture intransigeante et violente dont on constate tous les jours l'horreur. En situation également, retournons en Tunisie ou en Égypte, en situation de vacance du pouvoir, certains vont se précipiter pour occuper le poste qui vient d'être libéré ou qui paraît libéré. J'avais évoqué ce point la semaine dernière avec l'exemple de ces ministres de Ben Ali qui ont retourné leur veste au dernier moment et qui ont proclamé qu'ils détenaient désormais les rênes du pouvoir. Mais ils ont été immédiatement contestés par le Parlement, qui a invoqué la Constitution, qui prévoit que si le président est empêché, c'est le Parlement qui dirige. Là encore, on peut faire le constat que l'État n'est pas une totalité unifiée, ne marche pas comme un seul homme. Même dans les régimes autoritaires, l'exécutif et le parlementaire ne parlent pas d'une seule voix, il y a une tension constitutive entre les deux. Il faudra aussi rajouter l'armée, la justice, etc. Et cette tension, elle résulte donc de la sectorisation, de la complexité interne à l'État. Donc on retrouve l'idée de Michel Daubry d'une sectorisation de la société et de l'État, et c'est donc, j'y insiste, essentiel pour la compréhension du déroulement des révolutions. Une autre solution, enfin, pour résoudre la crise révolutionnaire, qui peut éventuellement être envisagée, quand c'est disponible, c'est de recourir à une personnalité supposée exceptionnelle, à un homme providentiel. Ça peut être, par exemple, un ancien dirigeant qui s'est exilé, ou qui s'est retiré, et qui, du coup, est étranger au jeu politique, et donc il n'est pas trop marqué. Lui, il peut maintenir une forme de cohésion de la coalition. peut penser à quelqu'un comme Václav Havel en République tchèque, qui est un intellectuel reconnu comme légitime pour son rôle de critique de l'Ancien Régime, mais sans affiliation partisane, hein, sans marquage d'un bord trop précis. Donc ça permet de faire consensus et de garder un camp révolutionnaire consolidé. Alors, d'autres personnalités peuvent être davantage marquées, mais peuvent parvenir à incarner le changement de régime dans leur personne, du fait de l'ancienneté de leur combat contre l'Ancien Régime, mais aussi du fait que leur camp a vaincu un ou plusieurs autres camps concurrents pendant le processus. Mandela, il est internationalement connu et reconnu comme le leader de l'opposition en Afrique du Sud. Lech Walesa, de même pour son combat et pour la répression qu'ils ont subie. Mais c'est aussi cette légitimité, le produit de l'État, d'une concurrence entre organisations d'opposition. L'ANC, Solidarité, n'étaient pas les seuls à incarner l'opposition en Afrique du Sud et en Pologne. Donc certains camps sont en mesure d'imposer leur homme providentiel. C'est le cas par exemple en 58, alors on n'est pas dans une situation de révolution mais de crise politique. De Gaulle en 58, c'est quelqu'un dont tout le monde ou presque se méfie, mais qui parvient à imposer la croyance qu'il est le seul en mesure de conjurer la menace d'un coup de force militaire sans remettre en cause les intérêts fondamentaux de tous les autres. Ce qui est intéressant à étudier dans ces circonstances, ce ne sont pas les qualités exceptionnelles elles-mêmes, mais de ce sauveur ou sauveur supposé, mais c'est la manière dont ces qualités sont attestées ou imposées. Dans le cas de De Gaulle en 58, il y a bien sûr la référence à 1940 et à son rôle de la résistance. Il a déjà joué le rôle de sauveur, mais c'est aussi l'entretien par le camp gaulliste de la plausibilité d'un coup de force militaire que lui seul serait en mesure d'éviter. D'où toutes les polémiques sur le coup de force qu'aurait représenté l'arrivée au pouvoir de De Gaulle, qui sont un petit peu atténuées au fur et à mesure que la Ve République s'est routinisée, mais qui en tout cas sur le moment étaient très, très fortes, très véhémentes. Deuxième point maintenant, le processus de transition. Alors, en fait, j'ai déjà commencé à évoquer ce point, puisque je me suis penché sur la manière dont de nouveaux dirigeants peuvent émerger et prétendre remplacer les anciens forcés de leur abandonner la place. Alors, la transition, qu'est-ce que c'est? C'est l'intervalle entre un régime politique et un autre, qui débute par la remise en cause de l'ancien régime et, de l'autre côté, qui va se clore par le fonctionnement routinisé du nouveau régime. Donc, pas grand-chose d'extraordinaire dans cette définition. Mais si on prend l'exemple de la Tunisie ou celui de l'Égypte, on voit qu'on n'est pas encore au terme de ce processus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore une routinisation, un fonctionnement harmonieux des nouvelles institutions. Dans le cas de l'Égypte, une nouvelle constitution a été adoptée, certes, mais avec un taux de participation très faible, et donc sa légitimité, elle est sujette à caution. Dans le cas de la Tunisie, on voit que, par exemple, le Premier ministre n'a pas pu imposer ses décisions à son propre parti et a été contraint de démissionner. On voit aussi que l'idée de transition, elle recouvre celle de révolution, en l'englobant, et qu'il n'y a pas lieu d'opposer les deux, mais d'une certaine manière, une révolution, c'est une modalité de la transition. Simplement, il peut y avoir aussi des transitions sans mobilisation, sans insurrection populaire. Du coup, on distingue différentes modalités de transition chez les spécialistes, et dont la révolution n'est qu'une des modalités. Lorsque les masses populaires se soulèvent et remportent une victoire militaire sur l'ancien régime. Ça peut aussi se passer lorsque les élites impulsent d'elles-mêmes le processus et en assurent en quelque sorte le pilotage d'en haut. C'est typiquement ce qui se passe lorsque les membres du régime, donc des dirigeants, des membres du régime autoritaire, commencent à se dire qu'une posture précisément répressive, fondée le régime uniquement sur la répression, c'est pas jouable à long terme. Alors ça révèle parfois des clivages à l'intérieur du bloc dirigeant entre les tenants d'une ligne dure Et ceux qui défendent une ligne de libéralisation politique, et ça peut amener les seconds, les partisans d'une libéralisation, à plaider pour le retour à un fonctionnement davantage démocratique. Alors, ce qui peut amener ces individus à adopter ce point de vue, donc la nécessité d'une libéralisation du régime, c'est pas nécessairement que ce sont des démocrates convaincus. Faut pas être naïf, c'est que ils s'inquiètent pour l'avenir et ils se disent que miser sur la répression, au bout d'un moment, ça va plus tenir. Ils sont également éventuellement sensibles à des sanctions internationales à l'égard du régime, un boycott comme l'Afrique du Sud à une époque, à des motions, des résolutions de l'ONU, etc. On voit l'Afrique du Sud, on voit aussi la Birmanie, comment ça a joué. Et donc ils peuvent envisager une libéralisation de leur régime en octroyant de nouvelles libertés civiques. C'est dangereux. On avait vu dans de précédentes séances, notamment en invoquant Tocqueville, que c'est précisément où le régime commence à se libéraliser que la population risque de se soulever. Un exemple de maladresse de ce point de vue, c'est Pinochet qui organise un plébiscite pour se relégitimer et qu'il perd, alors qu'il pensait pouvoir s'appuyer sur un bilan économique favorable. Alors, lorsqu'ils se rendent compte qu'un régime démocratique est ce qui va satisfaire tout le monde en préservant leurs intérêts, ces membres du bloc dirigeant vont négocier ce passage à la démocratie avec l'opposition, qu'ils vont éventuellement légaliser ou rappeler de son exil si elle n'était pas légale. Alors, c'est un moment important qu'on appelle les pactes ou les tables rondes. Les deux termes sont équivalents. C'est-à-dire que les anciens et les nouveaux acteurs politiques vont négocier les conditions du passage d'un régime à l'autre. Ces négociations sont éventuellement publiques, mais elles peuvent être aussi secrètes. En Pologne, la table ronde a été organisée par les élites communistes avec des représentants de solidarité. En Espagne, après la mort de Franco, les membres de son régime, les héritiers du régime franquiste, se sont réunis pendant des semaines au palais de la Moncloa pour négocier avec la monarchie et les partis de l'opposition les formes d'une monarchie constitutionnelle. Donc un enjeu important et même décisif dans ces pactes, dans ces tables rondes, c'est la définition de la liste des participants. C'est-à-dire que vous pouvez inviter à la table ronde des membres de l'opposition, mais pas tous. Vous pouvez dire, ceux-là, oui, on les accepte, mais alors ceux-là, non, vraiment, ils sont, c'est des affreux. Vous pouvez décider d'inviter ou pas les communistes, les partis religieux, les syndicats, etc. Et par exemple, pendant le pacte espagnol, le parti communiste n'a pas été invité, mais sa légalisation a été négociée, a été obtenue pendant la table ronde. Alors, ce qui va résulter des pactes, c'est un accord explicite, mais pas nécessairement public ni justifié, un accord explicite entre les participants qui va définir les règles d'exercice du pouvoir dans le futur et immédiat sur la base de garanties mutuelles pour les intérêts vitaux de ceux qui en sont partie prenante. Donc ce sont des solutions temporaires afin d'éviter des conséquences fâcheuses pour chacun. On élabore un arrangement pour éviter les conflits entre les différentes parties prenantes de la table ronde. Donc les pactes, ils peuvent fournir la base de futures constitutions, ils peuvent définir un certain nombre de procédures standards pour la compétition politique ou les agences de l'État, mais ce sont des ajustements qui permettent de changer de structure politique sans confrontation violente, et sans la prédominance d'un groupe sur les autres. Il s'agit donc d'un marchandage démocratique, mais qui se réalise en haut, en tenant à l'écart le peuple, soit parallèlement à la mobilisation du peuple, c'est le cas dans les pays de l'Est, en 89, soit en l'absence de mobilisation populaire, en Espagne après la mort de Franco. Autre chose, les pactes peuvent être imposée par une puissance étrangère lorsque la chute de l'ancien régime résulte d'une intervention étrangère. Comme je l'ai dit, les transitologues sont aussi des experts et leur insistance sur les vertus des pactes fait par exemple que ce sont des manières de faire qui ont été adoptées en Irak et en Afghanistan récemment. Lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre de nouveaux principes de compétition politique. Les pactes, ce sont donc les lieux d'une négociation. Chacun fait des concessions en échange d'une sauvegarde de ses intérêts vitaux. Les tenants de l'Ancien Régime, par exemple, vont exiger une immunité, des lois d'amnistie pour ne pas être poursuivis pour des exactions qu'ils auraient pu commettre par le passé. Pendant la transition chilienne, Pinochet va négocier son départ contre un poste de sénateur à vie avec une immunité complète et une loi d'amnistie passera l'éponge sur ce qui s'est passé à partir du mois de septembre 1973. Alors on peut aller dans le détail et identifier plusieurs moments dans le pacte, ou plusieurs pactes à l'intérieur du processus global. Un moment important, bien sûr, c'est le moment militaire, pendant lequel il va s'agir de définir la place des forces armées dans le processus et la place qui leur sera réservée dans le nouveau régime. Et si des exactions ont été commises sous l'Ancien Régime, il va s'agir de définir la part de responsabilité ou de réparation qu'on va exiger pour leur contribution à la répression. Mais évidemment, tout dépendra du rapport de force et de la capacité de l'armée à mettre en péril le processus. Si il commence à froncer les sourcils, on va oublier, on va s'arranger autrement. Si l'armée est toujours en mesure de mettre en péril un processus de transition qui reste, bien sûr, toujours fragile. D'où, évidemment, les immunités, le contrôle des militaires sur leur propre promotion, par exemple. Dans le nouveau régime, l'armée reste relativement autonome, voire conserver un rôle institutionnel de surveillance sur le secteur politique. Or, quand les militaires n'ont pas directement participé à la conduite de l'État et ont seulement joué un rôle répressif, ils ne se sentent pas forcément engagés dans la défense de l'Ancien Régime et ils peuvent demander seulement qu'on préserve leur immunité et qu'on préserve leurs intérêts sectoriels, par exemple de promotion. Évidemment, la situation elle est différente quand ce sont les militaires qui ont exercé le pouvoir directement. Ils vont exiger de participer au processus de transition et ils ne vont pas regagner leur baraquement sans compensation politique, évidemment, et sans garantie. Le moment économique, également, est un moment important, parce qu'il y a la nécessité d'un consensus sur les enjeux macroéconomiques et d'un compromis entre les intérêts de classe. Il faut rassurer les travailleurs sur que les droits sociaux seront maintenus ou restaurés, voire améliorés. Et puis, il faut éventuellement rassurer la bourgeoisie et les grands propriétaires terriens sur le respect de la propriété privée. Il faut aussi rassurer, dans les pays qui sont passés d'une économie d'État à une économie de marché, les anciens responsables sur le fait qu'ils pourront continuer à diriger les entreprises, voire même se les approprier. La nouvelle classe capitaliste en Russie, et plus généralement dans les pays de l'Est, est directement issue des anciennes élites communistes qui s'occupaient de la gestion des entreprises. Un problème, cependant, peut se poser au niveau économique lorsque l'Ancien Régime a ouvert le pays aux capitaux étrangers. Parce que, évidemment, ça rend la transition dépendante d'enjeux extérieurs et susceptible de peser sur son déroulement. Donc, tout va dépendre de la capacité des firmes étrangères à faire valoir leurs intérêts auprès de leur propre gouvernement. En Iran, au Chili, au Venezuela, seront des modalités évidemment très différentes. On sait que les entreprises américaines ont su se faire entendre de leur gouvernement pour préserver des intérêts qui étaient menacés par des velléités de nationalisation. On sait aussi que le pétrole irakien, c'est un enjeu qui a pesé dans les guerres qui ont été menées par les États-Unis et que ces intérêts n'ont pas été oubliés dans le processus de transition organisé par les mêmes États-Unis après la chute de Saddam Hussein. Et dans son mode d'emploi, j'avais évoqué ça la semaine dernière, le mode d'emploi pour l'organisation des coups d'État qu'a rédigé Loutfak, Loutfak insiste aussi sur l'importance, immédiatement après avoir renversé un régime, de rassurer des intérêts économiquement puissants pour qu'ils restent à l'écart du processus. Ne vous inquiétez pas, on change simplement de direction, mais vos intérêts sont sauvegardés. Vous n'avez pas besoin d'intervenir. J'avais aussi insisté les précédentes semaines sur le fait que les révolutions, ce sont des processus doubles qui se mènent en haut et en bas de la société. Les états généraux et la prise de la Bastille, l'insoumission des soldats russes et la concurrence entre les soviets et la Douma, les manifestations place Tahrir et puis l'armée qui se désolidarise de Moubarak, entre autres exemples. Alors, avec cette question des pactes, on envisage le processus d'en haut, dans la manière dont les élites négocient entre elles le changement de régime. Et en général, les participants à ces pactes essayent de négocier à distance des masses populaires. Ce sont des procédures non démocratiques, parce qu'elles sont fondées sur la cooptation, mais qui essayent d'élaborer un régime démocratique. Et aussi, je l'ai dit, les participants à ce processus ne sont pas nécessairement des démocrates convaincus. Simplement, la logique du processus, la dynamique de la crise révolutionnaire, fait que la démocratie devient le seul jeu en ville, pour utiliser une expression qu'utilisent fréquemment les transitologues. C'est-à-dire la démocratie devient la seule issue envisageable. L'autre élément important à retenir, c'est que, le plus souvent, les membres de l'ancien régime restent dans le jeu. Tout au moins, certains d'entre eux qui ont su anticiper l'avenir. Et donc, le nouveau régime ne sera pas totalement nouveau, parce qu'il va intégrer, dans l'opposition, mais pas toujours, des éléments de l'ancien régime. Pensez à Vladimir Poutine, qui est un ancien du KGB, qui a su, dans le processus de transition, sauvegarder ses intérêts et même les faire fructifier. Il est possible d'éviter que la participation du peuple vienne perturber la négociation. À ce niveau-là, si on se situe du point de vue des participants au pacte, la mobilisation populaire, c'est plutôt, ça réintroduit de l'incertitude. D'où l'intérêt, si une insurrection a lancé un processus révolutionnaire, d'inviter les masses populaires à rentrer chez elles, par exemple via l'instauration d'un couvre-feu. Dans cette phase, la mobilisation du peuple est susceptible aussi d'être un facteur dérangeant. Mais aussi, elle peut être favorisée, encouragée, entretenue par un certain camp qui a tout intérêt à peser sur les autres et à s'assurer de la mobilisation populaire pour faire valoir son point de vue et engager un rapport de force. Donc c'est entretenir la mobilisation, c'est un moyen de faire pression, ou d'entretenir la pression pour rester dans le jeu et faire valoir ses propres positions et intérêts. Et des porte-paroles d'un soulèvement peuvent ainsi être désavoués dans le cours du processus parce que les masses se sont dotées de nouveaux représentants qui sont parvenus à les radicaliser. C'est par exemple ce qui se joue dans la révolution russe entre février et octobre. Les bolcheviks, c'était un camp au sein d'une coalition révolutionnaire plus large, mais ils sont parvenus, après l'élection d'une Douma social-démocrate, à entretenir l'effervescence contestataire. Et ils ont su obtenir et garder la direction de cette effervescence, jusqu'au coup de force d'octobre. C'est aussi, dans une certaine mesure, ce que le camp islamiste est parvenu à faire en Iran. Ils ont maintenu une pression populaire jusqu'à ce que leurs alliés, mais aussi leurs rivaux, ou en tout cas concurrents libéraux, soient évincés. Alors, pour en revenir au pacte, un de ses enjeux, c'est également de définir les processus démocratiques à venir, c'est-à-dire le type de démocratie qu'on veut implanter. Là aussi, c'est un enjeu important, parce que le mode de scrutin qu'on va choisir va nécessairement favoriser certains camps et défavoriser d'autres. On va se mettre d'accord sur la liste des partis qui seront autorisés à participer aux élections. On va se mettre d'accord sur les seuils de représentativité. On va se mettre d'accord sur la délimitation des circonscriptions. Est-ce qu'on donne la priorité aux circonscriptions rurales ou est-ce qu'on donne la priorité aux circonscriptions urbaines? sachant qu'en général, c'est des populations qui votent de manière très différente. Est-ce qu'on va autoriser ou pas les anciens dirigeants à se présenter, éventuellement sous un nouveau nom, avec un nouveau parti ? Donc ça, ce sont des questions cruciales sur la radicalité du processus. L'enjeu aussi, c'est de parvenir à de vraies majorités en évitant les minorités de blocage. Et ce qui est à relever, c'est que ces choix constitutionnels, eh bien, ils se font autour d'enjeux de court terme, pour répondre aux problèmes qui se posent ici et maintenant. Éviter que les communistes pèsent trop, ou les islamistes, ou les religieux, quels qu'ils soient. Réduire l'influence du vote rural, ou au contraire, lui donner la priorité. Donc ce ne sont pas de grands principes juridiques qui inspirent les constitutions qui vont résulter d'une transition à la démocratie. Ce sont des enjeux de court terme, et c'est aussi l'état des rapports de force à l'intérieur de la coalition qui a la haute main sur le processus. Donc c'est le court terme qui préside, même si parfois on va conserver durablement des institutions qui sont nées d'une crise révolutionnaire. Alors, la transition démocratique, elle sera dite consolidée par les transitologues, lorsque des élections régulières auront pu se tenir sous l'empire de la nouvelle constitution. Mais les résultats de ces élections peuvent aussi représenter un moment critique. Les révolutionnaires, bien souvent, ce sont seulement une minorité, généralement urbaine, et une démocratie, ça fait participer tout le monde. Donc une proportion de gens qui n'ont pas participé au soulèvement, et qui peut-être n'en partagent pas les objectifs. En d'autres termes, ceux qui mènent les révolutions ne sont pas nécessairement ceux qui en retirent un bénéfice politique. Et c'est clairement le cas en Tunisie et en Égypte, où les islamistes d'Ennahda ou les frères musulmans ont joué un rôle négligeable dans la chute de Ben Ali ou de Moubarak. Mais aujourd'hui, ils sont au pouvoir parce qu'ils ont reçu la plupart des votes d'une population qui soutenait pas l'ancien régime, mais qui soutenait pas nécessairement les révolutionnaires. Donc on voit comment peut se réaliser une dépossession de la révolution à la faveur des élections. Et puis un dernier mot concernant les processus de transition. Donc j'ai évoqué Pinochet et les militaires chiliens qui se sont garantis une protection par des immunités et des amnisties. Mais le fait que Pinochet ait été poursuivi et que des militaires tortionnaires aient été condamnés montre que cette protection, elle n'est pas toujours définitive, ce qui est plutôt rassurant. Avec le temps, et notamment avec la mobilisation des familles des victimes de la répression, des enquêtes sont ouvertes, par exemple pour découvrir des charniers, identifier des disparus, et des procès sont menés. Alors, ça pose la question plus générale de comment parvenir à vivre avec les anciens dirigeants lorsqu'ils étaient partie prenante d'un régime autoritaire ou lorsqu'ils avaient assis leur pouvoir sur un très fort clivage dans la population. Et là aussi, des dispositifs existent qui sont promus par certaines ONG ou institutions internationales, qui sont promus comme des exemples à suivre. Et c'est le cas des procédures de type vérité et réconciliation, qui essaye d'établir la vérité sur des événements, mais aussi d'assurer la cohésion d'une société qui ne peut vivre durablement dans l'entretien de la division et des rancœurs, ou de l'esprit de vengeance. Donc il y a dans ces dispositifs la recherche d'une troisième voie entre l'impunité, qui évidemment laisse les victimes et leurs proches insatisfaits, et la justice, qui risque de braquer les anciens répressifs et de fragiliser la nouvelle démocratie. Alors, cette troisième voie, c'est celle du pardon, qui va essayer d'établir un récit qui va tenir lieu de vérité officielle sur tout ce qui s'est passé, mais qui aussi va faire l'économie des poursuites judiciaires tout en favorisant la réconciliation des différents camps qui résistent, qui existent, qui persistent à l'intérieur de la société. Alors, évidemment, c'est une solution qui a toutes les chances de laisser beaucoup de monde insatisfait, parce que notamment ça ne répond pas au désir de vengeance ou au désir de justice des victimes, mais aussi parce que ça peut être dénoncé comme relevant de la lâcheté. Parce que c'est l'idée, la vérité en l'échange de l'abandon des poursuites individuelles. Mais c'est une solution originale parce qu'elle fait travailler ensemble l'histoire et la justice. Donc ces dispositifs qui ont d'abord été employés en Afrique du Sud post-apartheid, qui a été utilisé dans les pays du cône sud de l'Amérique latine, donc Chili, Argentine, c'est aussi utilisé au Rwanda après le génocide. Hein. Et c'est des choses qui ont été étudiées, j'y renvoie, par Sandrine Lefranc dans un livre qui s'appelle « Politique du pardon ». Alors, troisième et dernier point, brièvement, qui est surtout un point de conclusion et donc qui sera bref, bilan des révolutions, en quelque sorte. Premier élément que je voudrais souligner à la lumière de ce que j'ai dit, notamment sur les pactes et les tables rondes, c'est que l'idée de rupture radicale et complète avec un ancien régime, qu'on associe généralement avec l'idée de révolution, c'est pas totalement satisfaisant. Il y a aussi des éléments de continuité entre l'ancien et le nouveau régime. Ça peut être des individus, ça peut être des forces politiques ou sociales, ça peut être aussi des institutions qui survivent en se redéfinissant au cours du processus. Et ça, c'est un point qui avait été souligné par Tocqueville, hein, encore lui, dans son livre « L'Ancien Régime et la Révolution », donc sur la Révolution française. Et selon lui, cette Révolution française n'a fait que parachever, en l'accélérant et en le radicalisant, le processus de transformation de l'État français qui était déjà engagé sous la monarchie, notamment du point de vue de la rationalisation de l'administration et de son ouverture sociale. Donc en fait, nous dit Tocqueville, la Révolution française, ça accélère des choses, ça les fait intervenir beaucoup plus brutalement et rapidement, mais ce sont des choses qui étaient déjà en germe sous l'ancien régime, sous Louis XVI. Deuxième élément sur lequel je voudrais insister, c'est donc savoir s'il est possible de tirer un bilan des révolutions, et si oui, quel est ce bilan. Alors, l'exercice, il a été conduit par un sociologue américain, Jack Goldstone, hein, et le résultat, il est pour le moins nuancé. Là aussi, c'est des choses que vous retrouvez dans la bibliographie. Hein. Et bien sûr, ce ne sont pas des bilans définitifs, et je crois qu'il faut se garder des conclusions du type « toutes les révolutions débouchent sur la barbarie ou la tyrannie ou sont nécessairement émancipatrices ». Il faut aussi se garder d'une vision téléologique, comme si l'histoire était écrite d'avance et si le point de départ du processus révolutionnaire recélait d'emblée le point d'arrivée. Hein. Comme toute séquence historique, le cours d'une révolution, il est sensible aux fluctuations du contexte, il a sa dynamique propre, et tout ça, ça peut faire basculer sa trajectoire. Hein. Une nouvelle fois, là je renvoie à des choses que j'ai expliquées dans la première séance, les causes superficielles, hein, pour parler comme Paul Venn, ne sont pas à négliger. Il suffit parfois d'un petit grain de sable, le nez de Cléopâtre ou une petite étincelle pour que les choses basculent. Donc toute proposition du type « c'était écrit », ça ne pouvait que conduire à « Staline et le goulag étaient en germe dès les écrits de Marx hein, ». Il y a des gens qui disent ça, ce sont des choses dépourvues de sens. Il n'en reste pas moins que sur le plan politique, les révolutions ont une fâcheuse tendance à déboucher sur des régimes autoritaires. Napoléon après la Révolution française, Staline après le Tsar, Castro après Batista, Mao après l'Empire et une brève révolution, etc. Mais il faut aussi prendre en compte que ces dérives autoritaires, indéniables, elles découlent en grande partie du fait que les révolutions concernées ont dû faire face à une contestation militaire, souvent étrangère. Hein, les monarchies européennes se sont alliées aux émigrés, aux nobles émigrés, après la Révolution française. Les armées blanches ont essayé de contester la Révolution russe après la chute du Tsar. Et évidemment, ces interventions militaires étrangères, elles ont donné un rôle prééminent au secteur militaire et favorisé une gestion politique de guerre défavorable à l'instauration d'une démocratie apaisée. Napoléon, c'est un chef militaire de la Révolution. Si on lui avait moins donné l'occasion de briller sur le pont d'Arcole et ailleurs, peut-être qu'il serait resté dans son île. Enfin, il serait retourné en Corse et... Nouvelle fois, ça peut être intéressant de refaire l'histoire pour voir à quel moment ça a basculé. On peut aussi constater que la révolution iranienne, elle a débouché sur une démocratie, même si les partis qui ont fructifié sont assez peu libéraux sur un ensemble de points. Jusqu'aux dernières élections, où il semble qu'il y ait eu quand même pas mal de fraudes, les présidents iraniens ont été élus démocratiquement. Et ces présidents ne disposent pas de tout le pouvoir, ce qui est en soi plutôt rassurant, mais ils disposent d'un pouvoir réel. Les sandinistes, une autre révolution tout à fait différente de 1979, les sandinistes au Nicaragua, ils ont organisé des élections dont ils sont sortis vaincus, alors même qu'ils avaient dû faire face à une contre-révolution armée, là aussi impulsée par une force étrangère, les contrats... soutenu par les États-Unis. Donc voilà, il n'y a pas nécessité d'une mise en échec de la démocratie par une dynamique révolutionnaire. Alors, sur le plan économique, là aussi, on peut essayer de tracer des bilans, et là encore, ces bilans sont nécessairement nuancés. Les objectifs proclamés d'égalitarisme social sont souvent vains, et les inégalités persistent, voire se renforcent. Ça a été le cas dans les pays de l'Est après 89. Mais c'est aussi à condition de prendre en compte que la situation révolutionnaire, elle désorganise l'économie, surtout lorsqu'il s'agit, lorsque ça débouche sur une guerre ou l'évasion des capitaux étrangers. De fait, c'est dans la phase de transition que ça se joue, dans la manière dont certains groupes économiquement puissants ou influents parviennent à préserver leurs intérêts en construisant un rapport de force qui leur soit favorable. Les grands propriétaires terriens ou certains groupes en mesure de s'approprier les secteurs dynamiques du point de vue économique. Et puis, on peut se dire que des pays qui ne connaissent pas de révolution, comme par exemple le nôtre, connaissent eux aussi de fortes inégalités. Donc cet argument ne saurait invalider a priori tout projet révolutionnaire. Un bilan contrasté donc des révolutions, mais qui doit être indépendant de tout essentialisme, qui conduirait aussi bien à clamer une seule solution, la révolution, qu'à dénoncer toute prétention du peuple à s'inviter dans le jeu politique sans s'en remettre aux professionnels et aux institutions en place. Les situations révolutionnaires, parce que de leur trait marquant, c'est d'être dominées par l'incertitude, les situations révolutionnaires sont riches de possibles potentiels. C'est une richesse de possibles sur laquelle insistait quelqu'un dont j'ai pas parlé jusqu'à présent, dont je parle uniquement à la fin, alors que peut-être il aurait mérité d'être évoqué plus souvent, qui est Daniel Ben Saïd, à la fois un philosophe et un acteur révolutionnaire, puisque c'était un des responsables de la 4e internationale trotskiste. Et c'est quelqu'un qui insistait beaucoup sur la richesse de l'événement, sur la richesse des possibles qu'il contient. Alors, des possibles qui peuvent être extrêmement défavorables, qui peuvent conduire à la barbarie, mais pourquoi pas aussi conduire à l'émancipation générale. Donc des possibles d'autoritarisme, mais aussi des possibles d'émancipation. Et donc la révolution, ça reste une des voies, c'est pas la seule, c'est pas forcément la plus judicieuse, mais en tout cas c'est une des voies possibles d'une émancipation sociale généralisée, et donc pour cette raison, je pense qu'il convient d'en entretenir l'actualité et la plausibilité, parce que ça peut toujours servir. Voilà. Merci.